BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Au menu cette semaine de votre magazine Santé, le droit à l'eau. Alors que vient de se tenir à Stockholm, en Suède, la Semaine mondiale de l'eau. Si l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu en 2010 par les Nations Unies comme un droit fondamental, dans bien des pays, le chemin est encore long pour que dans la pratique, ce droit devienne réalité et une réalité durable. Illustration au Mali et à Madagascar, deux pays qui luttent pour tenter de se rapprocher de la réalisation de l'ODD numéro 6, soit l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats d'ici 2030. C'est Constance Fischer au micro, soyez les bienvenus. Comme souvent, la résolution de l'ONU sur le droit à l'eau a une signification symbolique importante. Mais le droit n'est exigible que s'il est inscrit dans les lois d'un pays et surtout si ces lois sont ensuite appliquées. Au Mali, l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tout le monde est un défi de très longue haleine, même si petit à petit la situation s'améliore. On en parle avec Fabrizio De Giorgio Ferrari Tricate. Il est italien et responsable au Mali de l'ONG belge Join for Water.
En fait, on cherche à coupler l'accès universel et la durabilité financière. Et c'est parfois là où il y a le problème, parce qu'il manque encore au Mali, au niveau institutionnel, mais aussi un peu dans la pratique, des systèmes de péréquation ou d'autres systèmes qui peuvent faire que les personnes plus fortunées puissent aussi prendre en compte les coûts d'approvisionnement pour ceux qui les sont moins.
En théorie, l'eau est censée être un droit de l'homme. Alors comment expliquez-vous, avec votre longue expérience sur le terrain, que ce thème qui est vital au sens propre du terme soit encore si problématique ?
Les blocages peuvent être de différents niveaux. D'abord, nous sommes au Sahel, donc il y a des zones où il n'y a pas d'eau, ou des nappes phréatiques contaminées au cyanure, par exemple, qui ne peuvent pas être exploitées. Donc, après, il y a la vastité du Mali, c'est un pays de 1 250 000 km², avec toute une partie sahélienne et saharienne. Parfois, on parle des manques de moyens, où l'argent n'est pas forcément dépensé d'une manière efficace et efficiente. Donc, il y a des déficits de planification, des intérêts politiques qui se mènent. Et aujourd'hui, il y a aussi la crise multidimensionnelle que le Mali est en train de vivre. Et peut-être un dernier ressort, mais il ne faut pas non plus le nier, c'est le taux de croissance démographique de ces pays. La population malienne double environ chaque 25 ans. Ce qui veut dire que chaque 25 ans, il faudrait doubler le nombre de services en eau et en assainissement, ce qui nous remet à nouveau dans une position où il faut faire toujours.
Est-ce que vous pensez que le Mali, les autorités maliennes doivent aussi inscrire le droit à l'eau, soit dans la Constitution, soit dans les lois? Est-ce qu'il y a des lois qui permettent aussi aux gens de faire valoir ce droit?
Le problème, ce n'est pas les lois, le problème, c'est l'application des lois, les respects des lois. C'est surtout à ce niveau que, en général, les pays saliens et les Mali notamment, fait défaut. Certainement, aujourd'hui, l'eau, comme droit humain, n'est pas inscrit dans la Constitution et peut être sûrement un élément important pour une prise de conscience, pour que l'État puisse assumer des responsabilités, mais ça seul ne suffit pas. Et là, on parle uniquement de l'eau, mais après, il y a l'autre face de l'eau, non, qui est l'assainissement, donc permettre l'eau propre de rester propre jusqu'à la consommation et d'être consommée dans un environnement propre. Et là, la situation est encore plus grave. On a, disons, environ 16% en milieu rural au niveau des taux de couverture des services d'assainissement de base. Le vrai objectif est de réduire toutes les maladies qui sont liées à une consommation d'eau de mauvaise qualité, augmenter la productivité, augmenter la fréquentation à l'école. Ce sont ça les objectifs finaux qui sont visés quand on parle d'eau potable.
On parle souvent aussi de bons comportements et de mauvais comportements en termes d'hygiène.
tout commence par l'eau, on pourrait dire. Donc, parfois, des comportements simples, comme se déchausser avant de rentrer, de monter sur la margelle, d'éviter que les animaux puissent divaguer à côté, etc. Donc, il y a des petits gestes qui, peut-être, peuvent apparaître comme superficiels, mais qui, en réalité, servent aussi pour instaurer un mécanisme mental qui donne de l'importance à certains aspects. Et après, nous avons aussi bien l'approche communautaire classique, donc au niveau des ménages, où nous insistons beaucoup sur l'abandon de la défécation à l'air libre, le lavage des mains au savon, l'utilisation des pots pour les enfants, etc. Mais aussi une approche spécifique centralisée sur les écoles.
Pour l'objectif du développement durable, donc 2030, c'est quasiment demain. Est-ce que vous êtes prudemment optimiste que le Mali, au moins, pourrait s'en approcher s'il ne, n'atteint pas l'objectif ?
Bon, pour l'eau potable, on pourrait plus ou moins s'en approcher. Comme je disais, les défis restent liés à la durabilité des services qui existent déjà. Parce que si d'ici 2030, la moitié de ce qu'on a construit aujourd'hui sera en panne, alors l'objectif restera quasiment inatteignable. Pour l'assainissement, c'est absolument impossible. Mais disons, peut-on même espérer que ça ne régresse pas.
D'accord.
C'est déjà peut-être un bon résultat.
Vous écoutez la DW.
Vous écoutez le magazine Santé. À Madagascar comme au Mali, le problème lié à l'assainissement et à l'eau potable reste encore un défi majeur. Chaque année, des milliers de Malgaches, notamment des enfants de moins de 5 ans, meurent de diarrhée causée dans la plupart des cas par l'impureté de l'eau et le manque d'hygiène. Pour bon nombre de Malgaches, l'accès à des latrines ou à des toilettes privées reste encore un luxe inconnu et la défécation à l'air libre est une réalité.
Non, je n'ai pas de toilette. L'idéal, c'est d'en avoir. Mais vous savez, construire un WC coûte cher. Nous vivons le jour, comme vous savez. Donc, je fais mes besoins dans la brousse. Sinon,
oui, nous avons notre propre toilette et il est question d'hygiène. D'autant plus que nous avons des enfants et il faut préserver la santé. Les toilettes sont vraiment utiles.
Nous empruntons les toilettes de notre voisin, mais cela demande aussi un nettoyage et nous le faisons. Mais comme nous quittons la maison très tôt, il nous arrive de ne pas avoir le temps de nettoyer, donc les odeurs comme les mouches surviennent.
Depuis des années, la lutte contre la défécation à l'air libre se fait. Ce travail de longue haleine bénéficie des appuis de plusieurs partenaires, tant financièrement que par le biais des actions, et ce, avec le ministère de la Santé publique. C'est le cas ici de l'une de l'organisation de l'USAID, avec le Bureau de la Sécurité Alimentaire, basé dans la capitale. Écoutons Edir Assonaev, spécialiste en gestion du programme de sécurité alimentaire.
Nous savons qu'il y a une corrélation directe entre l'accès à l'eau, l'utilisation de l'eau, l'hygiène et la malnutrition. Mais entre les deux aussi, la diarrhée qui est la deuxième maladie qui cause la mortalité des enfants à Madagascar et presque partout dans le monde affecte aussi la nutrition des enfants. Donc la sanitation de combattre la défécation à l'air libre est une priorité pour l'USAID.
Mais comment y parvenir ? L'hygiène, l'assainissement sont indissociables avec l'accès à l'eau potable, d'où la grande sensibilisation qu'il faudrait faire et continuer. De vastes campagnes de sensibilisation et d'information continuent encore aujourd'hui, mais par quelle stratégie surtout ? Toujours Edir Assonaev.
On va dans les communautés avec en général même le chef de région, les chefs de district, les maires, les chefs de CSB, médecins inspecteurs, les leaders traditionnels, etc., et les présidents des Fukuntan, qui sont au niveau de la communauté. Donc il faut que tous ces gens-là aient une même vision et soient convaincus qu'il doit y avoir un changement dans la communauté. Et on fait une grande réunion avec les communautés dans chaque village, et puis on parle directement. Et là, la manière dont on agit généralement, c'est de leur faire voir, on leur prouve directement, en prenant un exemple, c'est vraiment de s'amener avec quelque chose, d'attendre, il y a une mouche qui vient, et les gens voient que les mouches qui viennent de là, ils vont aller sur leurs assiettes. Puis on leur demande, est-ce que vous avez envie de manger ça ? Il y a encore beaucoup à faire. Parce que nos zones d'intervention sont limitées, hein, par les financements, les ressources, etc.
Ces efforts ont apporté quand bien même leurs fruits, si l'on parle des sites d'intervention de l'ESAID par exemple.
L'idée, c'est vraiment de ne pas imposer directement à la communauté l'approche qu'on veut, c'est de l'informer et d'essayer de déclencher leur motivation même quand ils voient les conséquences de la défécation à l'air libre, qu'ils prennent par eux-mêmes les actes. Quand on impose, certains ménages, par exemple, ils construisent les latrines, mais ils ne l'utilisent pas. La plupart du temps, c'est surtout à cause de barrières culturelles, d'une part. D'autre part, avec le taux de pauvreté à Madagascar, pour avoir une latrine qui suit les normes, ça prend quand même un certain investissement au niveau des ménages. Un troisième défi qu'on a identifié, c'était au niveau institutionnel, comment on travaille avec le gouvernement. Parce que c'est eux aussi, avec les autorités locales, c'est aussi des fois qui ont des blocages parce que s'attaquer à un tabou ou à une culture qui a été là depuis des centaines d'années fait réagir les gens. Et parfois, il y a même des considérations, disons, politiques. Certains élus ou locaux ou leaders traditionnels, ils ont peur de changer parce qu'ils ont peur de perdre la confiance de la population.
Mais il existe aussi des accompagnements afin que les habitants puissent avoir leur propre latrine. L'objectif à atteindre consiste également à avoir des agents communautaires volontaires, surtout pour sensibiliser davantage les habitants. Les initiatives de résolution de l'accès à l'eau continuent de faire leur chemin, et comme tout est en corrélation, il s'agit pour Madagascar de travailler encore plus sur ce grand chantier et que les efforts entamés soient accompagnés pour que les villages soient exempts de défécation à l'air libre, les communautés deviennent de plus en plus résilientes et prêtes à poursuivre les améliorations en matière d'assainissement pour empêcher la contamination et la transmission des maladies. Priska Rakutmala Lantan arrive pour la Deutsche Welle.
Un reportage de notre correspondante à Madagascar qui est à retrouver comme d'habitude sur notre site dw.com/français rubrique médiathèque magazine santé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, restez en bonne santé et à l'écoute de la DW.